Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire dont la vie ne tenait qu'à un fil. Après la funambule Maria Spelterini, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, à 99% vrai, d'une autre femme dont la vie n'a longtemps tenu qu'à un fil, mais pas le même genre de fil ou de ficelle.
Genre. Oui, Stéphane, oui. Ce fil, couleur chair, était ce qui séparait notre troisième personnage du jour de la nudité totale dans le clip qu'il a fait connaître au monde entier en 2013. Clip devant lequel tout individu normalement constitué et indépendamment de son orientation sexuelle ne pouvait balbutier que quelque chose comme
« Ah moi oui, ça me fait... » Enfin bref.
C'est ce qu'on appelle l'effet Ratajkowski. Pour prendre la mesure du phénomène, il nous faut revenir en 2013. Nous sommes avant le mouvement MeToo, c'est important de le préciser, et le monde découvre le clip « Blurred Lines ». Signé Robin Thicke et Pharrell Williams, clip où l'on peut voir trois filles se trémousser seins nus avec un entrain manifeste autour de deux mecs en costard qui chantent « Je sais que tu en as envie, je sais que tu le veux ». Le titre de la chanson, Blurred Lines, ligne floue, étant lui-même une référence à cette zone grise, cette zone floue du consentement. Il n'est aujourd'hui plus possible de visionner la version originale du clip où ces demoiselles paradaient topless, seulement la version censurée, aux grandes dames de certains puristes.
Si ça, c'est pas un truc de FDP.
Visiblement très à cheval sur la liberté d'expression artistique. Bon, alors, au d'abord être en 2013, je ne vous cache pas que le côté un chouïa sexiste du clip fait polémique. Des voix féministes se sont élevées, certaines universités ont interdit la diffusion de la chanson qui apparaît pour certains presque comme une apologie du viol. Pharrell Williams n'assume plus du tout quelques années plus tard, et Robin et lui ont même été accusés d'avoir plagié la chanson, une chanson de Marvin Gaye, et ils ont été condamnés à verser 7 millions de dollars aux ayants droit de ce dernier. Mais au-delà de cette polémique, ce clip a également vu naître un phénomène qui compte aujourd'hui plus de 27 millions d'adeptes dans le monde, le phénomène Émilie Ratajkowski, ou M-Rata, comme elle se surnomme sur les réseaux sociaux. Des trois mannequins du clip, c'est elle qui crève l'écran, ses courbes affolantes, sa moue boudeuse affole la toile. David Castello-Lopez déclarera même « Depuis que j'ai découvert Émilie, j'ai oublié Constance ». C'est simple, depuis 2013, David n'a qu'un désir.
La pénétrer au plus près.
Au plus près de ce qu'elle est vraiment. Non. C'est ce que voulait dire Stéphane, bien sûr, on est tous d'accord. Qui se cache derrière cette sculpturale déesse? Pour le comprendre, remontons le temps jusqu'en 1991, le 7 juin. C'est là, à Londres, que vient au monde Émilie O'Hara Ratajkowski. Ses parents sont américains, sa mère prof de lettres, son père peintre et professeur d'art. Ils déménagent à San Diego quand Émilie a 5 ans. Très tôt, elle commence à s'habituer à attirer l'attention des inconnus. Elle est belle, très belle. À 14 ans, elle devient mannequin dans une grande agence, souhaite devenir actrice. Mais voilà, les rôles qu'on lui propose sont souvent ceux de pom-pom girl et cervelée. Alors elle préfère arrêter les castings pour se réfugier dans la lecture. Oui, j'aime bien. C'est là qu'elle commence à développer un vrai point de vue féministe grâce à sa mère qui lui offre une copie du livre de Naomi Wolf, The Secret Struggle for Womanhood, la lutte secrète pour la féminité. Clairement, Émilie n'a rien d'une pom-pom girl écervelée. Elle est une ado un peu en marge, qui lit beaucoup, écoute Joy Division et ne connaît aucune chanson des Spice Girls. À 19 ans, elle s'inscrit à UCLA, l'Université de Californie, pour étudier les beaux-arts. Mais voilà, elle n'adhère pas au programme, elle ne se sent pas libre et ne se résout pas à partager un dortoir avec 5 filles, contrairement à David qui ne voit pas où est le problème. Elle déménage alors à New York et décide de se concentrer sur le mannequinat grisé par l'indépendance financière que ça lui procure. Après une couverture d'un magazine que je qualifierais d'encore plus sexy que la une de Télé 7 jours où Stéphane sourit devant un clocher, Émilie se voit offrir deux rôles dans des clips d'artistes assez célèbres, Maroon 5 pour le premier, où on la voit s'adonner aux joies du body painting avec le chanteur Adam Levine, et bien sûr, notre cher Robin Thicke et ses Blurred Lines dont je vous parlais tantôt. Et là, c'est l'explosion, les millions de vues, et cette notoriété mondiale parfois pesante, car elle s'accompagne évidemment de ces gros relous qui viendront désormais l'accoster dans la rue avec des punchlines du genre « Wow, you're the hottest bitch in the place !» Malgré la polémique que suscite le clip, M-Rata en sort gagnante et elle assume. Ma mère m'a appris à ne jamais m'excuser pour ma sexualité. Mon père ne m'a jamais fait me sentir gênée. Je n'ai jamais perçu mon corps comme étant un objet ultra-sexualisé. C'est juste mon corps, quoi ! Explique-t-elle avec cette ingénuité qui, je le sais, ne fait qu'exciter encore plus ce pervers de Castello. Vous me dégoûtez, David. Elle affirme aujourd'hui... Non, vous me dégoûtez, je vous le dis. Elle affirme aujourd'hui dans cette vidéo que cette vidéo, donc le clip dont on parle, est le fléau de son existence. Néanmoins, elle ne dénonce jamais vraiment le caractère misogyne, sexiste du projet. Elle aimerait juste qu'on passe à autre chose et qu'on arrête de lui en parler. Alors moi, je suis d'accord. Hélas, les autres, visiblement, non, puisque quelques temps plus tard, forte de sa nouvelle notoriété, Émilie décroche enfin un rôle dans un gros film, Gone Girl, signé David Fincher. Fincher. Elle y interprète la maîtresse de Ben Affleck. Un rôle secondaire, mais qui va marquer les esprits, comme le confirme l'ex-femme de Ben Affleck au moment de la sortie du film, qui raconte « Plus personne ne s'intéressait à mon mari, pourtant personnage central de l'intrigue. Il m'a dit qu'on lui avait parlé que des seins de la fille du clip de Blurred Lines, qui au passage sont naturels et fabuleux. » Mais heureusement, Emily n'est pas toujours renvoyée à son image de top modèle, puisque dans la version ciné de la série Entourage, elle incarne le rôle d'un mannequin super hot courtisé par une star hollywoodienne. Oui bon, ok, elle est toujours renvoyée à son image, et ça l'énerve, Emily. J'ai des critères très sérieux et précis lorsqu'il s'agit de choisir un rôle, et c'est ça qui m'a niqué. Sick. L'histoire et le scénario doivent être intéressants et intelligents, mais à chaque fois, c'est pour une fille moche. Et oui Stéphane, le fameux problème des gens trop beaux que nous connaissons bien tous les deux, hein, depuis l'enfance. Combien de portes se sont fermées sous prétexte qu'on était trop beau, trop sexy? On ne les compte plus Stéphane. Emily tente alors de noyer sa rancœur dans le féminisme. Mais comme elle le dit, pas comme Beyoncé ou Nicki Minaj, ces personnalités qui n'ont peut-être pas grand-chose à dire. Non, son féminisme à elle, il est à propos d'elle. Une sorte de jonglage permanent entre ses actes et le besoin de s'en expliquer. Car évidemment, tout est assez contradictoire avec Emily. Ainsi, un jour, elle peut poser pour un calendrier, se tortillant, couverte de spaghettis graisseux qui dégouline sur sa lingerie, se léchant les doigts de façon assez suggestive. Et le lendemain, elle publie un essai écrit à la première personne où elle pose d'intéressantes questions comme « Dans quelle direction les filles peuvent-elles regarder pour trouver des femmes qui ont le pouvoir de décider quand et comment être ou se sentir sexuelle ? Même si être sexualisé par le regard de la société est dégradant, il doit y avoir un espace où les femmes peuvent encore être sexuelles quand elles choisissent de l'être. » Voilà, vous avez 2 heures. Bon, toujours est-il que je m'en ouvre à vous cet après-midi, je n'arrive pas à avoir un avis tranché sur Emily Ratajkowski. Je suis très sérieux, moi qui me considère comme un authentique féministe, pourquoi suis-je mal à l'aise avec le fait qu'une femme qui se dit féministe lance sa collection de string de bain pour adolescentes ? Peut-être parce qu'en prenant la liberté de faire ce qu'elle veut avec son corps correspondant parfaitement au canon esthétique tel que décrété par les hommes, Emrata se rend de fait complice du mouvement de sexualisation qu'elle se propose de dénoncer.
J'ai pas compris tous les mots de la phrase.
Moi non plus, mais on s'en fout. Parce qu'Emrata a trouvé la parade à toute critique en tranchant que quiconque remet en question ce qu'une femme porte ou ne porte pas est sexiste. Simple, basique, peut-être trop, je vous laisse y réfléchir. Ah, sinon, Emily est enceinte.
Oui.
Et vous savez ce qu'elle a fait pour annoncer au monde entier qu'elle était enceinte ? Eh ben, elle a posté un selfie d'elle à poil sur Instagram, bien sûr. Mais avec des chaussettes, quand même, des chaussettes. Peut-être faut-il simplement retenir cette liberté absolue, ce désir de vivre son corps et sa sexualité, comme chacun l'entend. La priorité étant les femmes, bien entendu, nous les bonhommes, hein, on a toujours fait ce qu'on voulait. Mais sans oublier également toutes les minorités et celles qui n'ont pas les mêmes mensurations que notre influenceuse, qui reste, hélas pour elle, en 2021, plus influenceuse qu'actrice, hein, puisque lorsque vous tapez Emily Ratajkowski sur Google, le premier mot lié qu'on vous propose, ce n'est pas actrice, c'est régime. Un régime que teste actuellement Stéphane.
Ben oui, parce que Summer Body.
Sacré duel de Summer Body en perspective entre Stéphane et Emily. Rendez-vous début juillet.
Merci Mathieu.
Vous allez, vous serez au niveau,
pensez. Je serai au niveau, mais si vous voulez, je ne vais pas faire concurrence avec
Emrata.
Emrata.
Europe 1, historiquement vôtre.